Session de philosophie par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 4 juillet 1996, deuxième conférence.
Pouvez-vous nous repréciser ce que veut dire l'âme acte du corps ? Peut-on dire que le corps est pleinement achevé par l'âme, pleinement lui-même par l'âme?
Acte. L'âme est l'acte du corps dans le sens que l'actu. C'est plus facile à comprendre, vous voyez. C'est-à-dire finalisé. On est finalisé. Et par là, l'âme est acte du corps. Vous voyez, l'âme informe le corps, en fait un corps vivant. C'est sûr. Mais ce corps vivant, c'est sa qualité particulière d'être vivant. Dans l'âme, c'est qu'elle l'actue, qu'elle le finalise, et donc quelle est la fin du corps. Et les deux aspects, à la fois, l'âme détermine, elle est quittité du corps, elle en fait un corps vivant, et elle le finalise, donc elle l'actue, en l'actuant, elle le finalise.
Qu'est-ce que la contemplation philosophique ?
La contemplation philosophique ne peut se faire que lorsque j'ai découvert l'existence d'un être premier. J'adore Dieu que j'ai découvert comme créateur et je cherche par tous les moyens de découvrir sa présence et de le regarder. Directement, je sais qu'il est présent et plus présent à moi-même que moi-même, je suis présent à moi-même, ce qui me permet d'être attiré par lui et dans cette attraction le contempler. Et c'est dans ce sens-là que je peux découvrir la simplicité de Dieu, la perfection de Dieu, toutes les grandes manières dont Dieu existe. Et c'est cela que je contemple. Alors, il y a une contemplation très imparfaite, c'est sûr, mais une vraie contemplation. Je suis attiré par Dieu. Et je suis fixé en Dieu, comme en celui qui donne le sens à toute ma vie intellectuelle, à toute ma vie humaine. Alors, contemplation imparfaite, mais contemplation grâce à la présence de Dieu. S'il n'y avait pas la présence de Dieu, je ne pourrais pas le contempler. Contemplation qui est très affective, étant donné la fragilité, la faiblesse de mon intelligence quand elle essaie de contempler Dieu, humainement parlant. Parce qu'au fond, le mode négatif est très fort. Ce que dit saint Thomas, je connais plus ce mode intellectuel est très faible. L'affectivité vient remplacer. Alors il ne faut pas tomber dans une affectivité romantique, dans une affectivité trop sensible, mais une affectivité vraie. Dieu est mon bien, et le bien de mon être, de ce que je suis, puisqu'il est le bien de mon être, je l'aime, et je suis attiré par lui. Il y a une contemplation réelle, mais très fragile. Mais vous en avez un témoignage, parce que vous pourriez dire, oh, vous dites ça parce que vous êtes chrétien, alors... Vous fourrez entre les pattes de ces gens-là en leur disant, regardez dans Aristote. Aristote n'a pas connu la révélation. Et Aristote termine toute son éthique par un chapitre sur la contemplation philosophique. Aristote a vécu cela. Et si on veut, si on est suffisamment familiarisé avec la philosophie sagesse, il y a une contemplation de Dieu qui est ce qu'il y a de plus grand dans ma vie intellectuelle. Alors, il y a quelque chose encore plus grand, c'est la foi, et par la foi, une contemplation théologique. Mais au plan naturel, la contemplation de Dieu est l'acte le plus important de toute ma vie. L'adoration est moins importante que la contemplation. Elle est plus facile parce que tout le monde peut contempler, tandis que tout le monde ne peut pas arriver à la contemplation philosophique. Mais on peut y tendre en sachant que c'est ce qu'il y a de plus grand sur la terre que cette contemplation philosophique.
Que voulez-vous dire par saisir l'induction par la finalité ?
Oui, ça, c'est très calé, ça. Je comprends. Quand ça doit vous dire des choses très calées, pour voir que ça fait un arrêt. Normalement, l'induction est commandée par l'interrogation. Je vous l'ai dit. C'est l'interrogation qui est l'âme de l'induction. Or, une induction peut être commandée par la finalité. C'est par là que vous comprenez. Puisqu'on interroge, qu'est-ce que c'est que l'âme ? Or, je peux, dans cette interrogation, dire, qu'est-ce que c'est que l'âme ? L'âme, si elle existe, elle est nécessairement ce qui me finalise. Vous voyez ? Alors, ce qui me finalise est impliqué dans l'interrogation. C'est comme si je posais la question, est-ce qu'il existe un être premier ? Cet être premier existe, il me finalise. Et c'est par la finalité que je le découvre. Et là, je crois que, personnellement, je crois que c'est très important de voir ça. Parce que ça a été complètement oublié depuis le XIVe siècle. Alors que pour saint Thomas, c'est, ça existe. Pour Aristote aussi. Mais c'est pas exprimé. Parce que saint Thomas ne croyait pas que si vite la finalité allait être arrêtée à cause de Don Scott. Mais dans la perspective d'un Don Scott, si saint que soit Don Scott, ce qui est béatifié, donc il faut respecter la décision de l'Église. Mais Don Scott a eu des maladresses au point de vue intellectuel. Il a dit que la causalité finale était métaphorique. Alors, en disant que la causalité finale est métaphorique, on l'exclut de la métaphysique. Et on l'exclut de la découverte de l'âme. Vous comprenez que ça m'aide énormément intellectuellement Dieu à travers mon âme. Ça oui, la contemplation de l'âme m'aide énormément à découvrir et à progresser dans l'attraction de Dieu sur mon activité intellectuelle. Alors c'est ça qu'il faudrait bien préciser. Je ne l'ai pas fait puisque on ne peut pas tout faire. Ce serait très important de bien comprendre comment dans l'intuition joue la finalité. Comment dans l'interrogation de l'induction, la finalité est présente et me permet d'avoir une force ma vie intellectuelle, tout son sens. C'est ça, je veux dire, le rôle, vous voyez, dans l'interrogation de l'induction de la finalité. Ça me permet de beaucoup mieux comprendre ce que représente cette attraction de cette recherche de l'âme.
Pouvez-vous revenir sur l'approfondissement de l'induction que représente la présence affective ?
Oui, redire.
Pouvez-vous revenir sur l'approfondissement de l'induction que représente la présence affective ? Vous parliez ce matin d'une vraie connaissance de l'âme qui est dans la présence affective.
Quand mon intelligence s'unit à mon amour, j'ai une force beaucoup plus grande pour rechercher la vérité. Et je ne la recherche plus uniquement en m'appuyant sur une abstraction. Principe, dit Aristote, tout principe propre est saisi par induction. Or, il y a un principe propre au niveau de la finalité. Donc, il y a une induction qui saisit ce principe propre de la finalité à travers l'amour. Donc, à travers une connaissance. Je crois qu'on peut dire que les deux grands moments de notre vie philosophique, découverte de notre âme, l'être premier, ces deux grandes inductions se font grâce à une connaissance affective. Parce que ce sont deux connaissances sapientiales, ultimes, fondamentales et ultimes. Et cela, on le dit pas, on le dit jamais.
Comment l'âme, principe fondamental des déterminations, peut-elle être seconde au... Ah oui, aux dispositions dans la génétique. Mais c'est un petit peu une question qu'on... Comment l'âme, principe fondamental des déterminations... Peut-elle être seconde aux déterminations de l'ordre génétique ? C'est-à-dire qu'au fond, c'est toute la question du patrimoine génétique et de l'âme.
Du patrimoine génétique
et de l'âme.
Et voilà. De l'âme, oui.
Comment l'âme, au fond, est à la fois source fondamentale et en même temps, on parle là d'une âme qui serait seconde par rapport à ses dispositions.
Vous pouvez maintenant redire pour que je comprenne.
Voilà. Comment l'âme, principe fondamental des déterminations, peut-elle être seconde aux caractéristiques génétiques, caractères génétiques ?
Seconde ? Pourquoi seconde ?
Et voilà, c'est ça.
philosophiquement, à quel moment l'âme est créée par Dieu ? Des questions très délicates. Il faut faire grande attention. Parce que je connais des très saints gens qui font lutte contre l'avortement, mais quelquefois d'une façon un tout petit peu trop. Vous voyez dans quel sens ? On en ajoute, croyant très bien faire. On doit chercher avant tout la vérité. Mais quand les gens sont passionnés, ils tombent dans une apologétique. Et j'aime pas que des chrétiens fassent de l'apologétique pour des sujets aussi sérieux. Parce que l'apologétique, ça change. Il y a des arguments rhétoriques. Mais on est tenté quelquefois de prendre des arguments massifs. Alors on grossit. Vous comprenez ? Je vais de l'imparfait vers le parfait. Le parfait, c'est la naissance. C'est le plan génétique. Et le petit embryon, je m'aperçois qu'il se développe. Puis, je précisais, je sais qu'à la naissance, l'âme est présente. Mais l'âme est-elle présente dès le premier moment de la conception génétique ? Ou est-ce que l'âme est après ? Si vous regardez l'encyclique du pape sur la vie, vous voyez que le pape, très rapidement, mais pour ceux qui comprennent, ils voient tout de suite. Le pape dit, au point de vue philosophique, c'est très difficile de préciser à quel moment l'âme est créée. Parce que je sais que des quantités de chrétiens, de bons chrétiens, qui luttent contre l'avortement, disent nécessairement l'âme est créée dès le point de départ. Et est créée tout de suite, dès le premier moment de la conception. Ce qui n'est pas sûr. Et l'argument que prennent des quantités, c'est de dire que on sait que quand il y a des jumeaux, il y a une division qui se fait très vite, mais qui n'est pas dès le premier moment de la conception. Alors si vous dites que l'âme est créée dès le moment de la conception, il y aura une âme pour les deux jumeaux. Ce qui est gênant, n'est-ce pas ? Ça c'est sûr, il n'y a pas qu'une âme. Chacun a son âme, il se développe selon son individualité et sa perfection. Et ça, vous ne pouvez pas l'expliquer. Et la philosophie doit respecter ce que la science me dit. Elle doit le respecter. Je n'ai pas une connaissance infuse au point de vue philosophique. Et je ne fais pas appel à la foi. Je dois donc dire... Je ne sais pas à quel moment exactement l'âme est créée. Ce que je peux dire et ce que je dois dire, c'est ce que le Saint-Père dit, et là, c'est tout à fait d'accord. C'est un être humain. Dès le premier moment de la conception biologique, c'est un être humain qui a son chiffre biologique nouveau, unique. Et ce chiffre biologique n'exige pas l'âme. Si ce chiffre biologique me montrait que l'âme était présente, tout savant devrait affirmer l'existence de l'âme. Vous devriez dire un savant qui n'affirme pas, un savant qui au niveau biologique n'affirme pas l'existence de l'âme, eh bien... C'est parce qu'il ne le veut pas. Donc il y a un a priori et un mensonge. Je ne saurais jamais dire ça. Alors c'est très difficile de le préciser. C'est très difficile. Alors je crois que vous voyez, le problème là est ça. Parce que ce développement, il se fait dès le point de départ, le premier moment de la conception. Je dis, non pas la conception humaine, mais la conception biologique. donne le chiffre de ce nouveau, de cet être nouveau, qui est le point de départ. Et il va jusqu'à la naissance. Il y a une certaine continuité, autant qu'on peut le savoir. Autant qu'on peut le savoir, parce que on ne peut pas le savoir de façon absolument parfaite. Mais au fond, selon les apparences, il y a une continuité. Il y a la naissance. À la naissance, il y a l'âme. Au premier moment de la conception, c'est très difficile. Si je sais que l'âme est créée par Dieu, et ça, le philosophe peut l'affirmer. Aristote l'affirmait. C'est pas ma foi qui me dit ça. Mon âme spirituelle ne peut pas venir des parents. Elle vient de Dieu. Et donc, le point de départ, le premier moment de la conception, est-ce que l'âme est présente? Dans toutes ces conceptions, dans toutes ces conceptions artificielles, le premier moment de la conception biologique existe. Est-ce que l'âme est présente? Vous ne pouvez pas l'affirmer d'une façon absolue. Vous pouvez avoir des convictions affectives, très bien, mais ne mêlons jamais des arguments scientifiques et des convictions affectives. Mais il faut dire, là, je ne sais pas. Il n'y a jamais de honte d'affirmer qu'on ne sait pas. Et d'affirmer plus qu'on sait, avec des arguments de rhétorique, c'est toujours très ennuyeux. Parce qu'un jour ou l'autre, on montre que ce qu'on a affirmé au niveau rhétorique, donc d'une manière symbolique, c'est le moutos. Et quand le logos arrive, et qu'il détruit ma construction de mon moutos, c'est catastrophique. Parce que les ennemis, vous dites, voyez ce que vous affirmez. Et à ce moment-là, vous perdez toute crédibilité. Ce qui est ennuyeux. Le chrétien doit garder autant qu'il peut une crédibilité en respectant les données de la science. Il doit les respecter. Et il doit savoir qu'elles sont à ce niveau qu'elles ne disent pas tout. La science biologique n'est pas adéquate à la réalité homme. Parce que l'âme spirituelle lui échappe. Et c'est comme la psychologie. La psychologie dit quelque chose, la philosophie dit autre chose. Ni la philosophie, ni la psychologie ne sont adéquates. Mais la philosophie va plus loin, parce qu'elle regarde la finalité. Alors, je dirais, la philosophie maintient des imperfections indéterminées, mais elle va plus loin. La psychologie a un terrain très précis, mais elle ne dit pas tout, puisque l'acte humain, elle ne regarde pas sa finalité. Donc elle ne peut pas juger la morale. Et on ne peut pas juger d'une vocation par la psychologie. Parce que la psychologie ne regarde qu'un aspect de l'acte humain. Et que je peux essayer de comprendre l'authenticité d'une vocation à travers un acte humain, et pas en prenant uniquement le conditionnement. Et c'est là où il faut respecter cette diversité de regard sur la complexité de l'homme. Et alors, ce développement, je pars donc de ce qui est le plus imparfait, premier moment de la conception. Développement qui se fait et dans la naissance, je suis en face d'un être humain. Quelquefois, j'hésite en venant en face d'un monstre. Je me souviens, c'était à Fribourg, je connaissais très bien une religieuse qui était sage-femme à l'hôpital. Et elle me racontait souvent des tas de choses au point de vue. Ses rapports avec les médecins, ça m'intéressait beaucoup. Et un jour, elle est arrivée. Elle aurait été très discrète, elle ne venait jamais. Je dis oui, régulièrement. Bonjour, elle est arrivée. À une heure, elle ne venait jamais. Elle était affolée. Elle me dit, j'ai jamais vu ça. C'était une brave petite paysanne qui venait de se marier, qui s'était mariée depuis un an. Toute jeune, elle avait 18 ans. Premier enfant. Paysan. Paysanne. Et cette fille avait mis au monde un monstre. Un monstre tel qu'on n'a pas osé lui montrer. Et elle m'a dit, elle qui avait ça depuis 30 ans, dans tout son métier de sage-femme, je n'ai jamais vu un être, un petit être humain, comme ça. Jamais. On ne reconnaissait plus un être humain. C'est effrayant. éclairer l'imparfait. Oui, deux démarches tout à fait différentes. Alors c'est ce qui arrive pour la connaissance de l'âme. Vous n'êtes pas cherché à connaître ce que c'est que l'âme à partir de l'embryon. Parce que qu'est-ce que vous voyez ? L'âme végétative. C'est l'âme végétative pour le mieux. Alors évidemment, on a la tentation de dire, voyez, il y a une continuité immanente. Il naît. Ben, il est dans l'état du petit embryon. L'âme végétative. Comment se fait-il que à un moment donné, il parle et il pense au... C'est l'évolution. Donc ça continue. Il y avoir quelque chose de tout à fait nouveau avec la création par Dieu d'une âme spirituelle. Mais je ne vois pas le moment dans le progrès et dans la croissance de l'embryon, le moment précis où il y a nécessairement une âme. On pourrait peut-être dire c'est le moment où l'embryon malade, on retombe dans une dépendance beaucoup plus grande. le préciser. On peut voir de telle date à telle date, il y a des chances. Mais il me semble qu'il ne faut pas insister trop vite, dire que dès le premier moment de la conception, l'âme est créée. Parce qu'il y a des problèmes qui viennent s'ajouter et qui ne sont pas commodes à résoudre si on affirme trop vite la création de l'âme. Mais il faut faire attention, parce que une fois j'ai dit ça dans un public que je connaissais, mais ils ont crié au scandale. Ah, alors, vous permettez l'avortement. Je dis, mais c'est pas la question. On n'a pas un droit sur le vivant nouveau. On doit le respecter. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. C'est le respect de l'autre. Et puis, si on a regardé la coopération de Dieu et de l'homme dans la procréation, on doit respecter l'ordre voulu par Dieu. Après.
Comment l'âme peut-elle assumer les difficultés corporelles, affectives, spirituelles ? Est-ce que cela peut avoir une influence sur l'âme elle-même, sur sa manière d'informer le corps ?
Pas la manière d'informer le corps. L'information du corps est au niveau de l'être. Donc, elle est indivisible et aucun choc extérieur ne peut agir directement, mais indirectement, oui. Et on le sait, ça. Une mère qui attend son enfant et qui a un accident, ça peut provoquer des conséquences. Mais au fond, l'influence est au niveau des dispositions. Mais non pas directement au niveau de l'être, mais au niveau des dispositions. Entre matière et forme. Entre âme et corps. Par les secousses que reçoit le corps dans un accident, par exemple, il peut y avoir une influence sur le lien entre l'âme et le corps. Au niveau de l'être, non. Mais cette unité est au niveau de l'être et est au niveau de la vie. Et donc au niveau des opérations vitales, oui. C'est la disposition. C'est le devenir. Là, il peut y avoir une influence. Ça, c'est sûr. Et donc, il faut distinguer toujours les différents niveaux sur lesquels on regarde le point de vue de l'âme qui détermine le corps, qui l'informe. Mais je ne peux pas couper ça au couteau. C'est très qualitatif. L'information de l'âme et du corps est au niveau métaphysique de l'être. Donc, pour moi, ça reste quelque chose que je ne connais pas directement. Puisque je connais l'être, et j'atteins l'être toujours par le devenir. Toutes mes expériences des réalités qui sont autour de moi, toutes atteignent l'être par le devenir. Et jamais directement l'être. Le jugement d'existence que vous portez sur la réalité, ceci est, se fait toujours par l'intermédiaire du devenir. Par l'intermédiaire de votre toucher qui atteint des qualités sensibles. Et les qualités sensibles sont toujours liées à la quantité et au devenir. Alors, vous atteignez bien l'être, mais par le moyen du devenir. Et alors, ici, c'est la même chose. Vous atteignez l'âme informant le corps par la quantité, par l'individuation, et donc par les dispositions, et pas directement. Mais vous l'atteignez vraiment, et pas directement. Vous pouvez faire un choc suffisant.
C'est mon corps qui fait mon individualité. Pourquoi ce n'est pas l'âme ?
C'est mon corps qui...
fait mon individualité.
Oui.
Pourquoi ce n'est pas l'âme ?
Très gros problème métaphysique, ça. Vous voyez, nous avons tous la même âme humaine. Spécifiquement la même âme humaine. Mais cette âme humaine, dès qu'elle informe le corps, chacun de nos corps est individué et a un chiffre biologique unique. C'est par le corps et la quantité qu'il y a une diversité individuelle pour chaque être humain. Tandis que l'âme, elle, est spécifiquement la même. Et c'est la même considération qu'on doit faire par rapport à l'intelligence. Nous avons tous une même intelligence. Mais par l'individuation, c'est-à-dire par notre corps, chacun d'entre nous, nous sommes individués d'une façon unique. C'est très heureux, hein. Personne ne peut me remplacer, biologiquement parlant. Personne. Et on peut toujours dire ça, oui. On a tous quelque chose d'unique, une originalité unique, que Dieu seul connaît parfaitement. Mais on est unique. On n'est pas remplaçable, parce qu'on n'est pas en série. En série, on peut toujours remplacer. Non, on ne peut pas. Il y a quelque chose d'unique. Et ce quelque chose d'unique s'enracine dans la matière et la quantité. C'est là où on découvre la première différence individuelle de chacun. Mais cette différence individuelle a tout de suite une répercussion directe sur l'exercice de notre intelligence, de notre volonté. Et à cause de cette diversité, sur le point de vue de l'exercice, progressivement, notre intelligence se développe plus ou moins. Et puis il y a aussi la paresse. Personne d'entre nous n'oserait dire qu'il n'a jamais eu un acte de paresse. Comme nous étions gosses, on ne comprenait pas pourquoi il fallait à l'école. On a boudé, on n'avait envie de pas y aller. Pour dire rien, parce que le professeur ne faisait pas attention à nous. Alors on l'a boudé, puisque tu ne fais pas attention à moi, ben je te réponds la même chose. Il faut qu'une attention à toi, et puis je ferai tout ce que je peux pour que personne ne fasse attention à toi. D'une manière très élégante de répondre. C'était la mère, une fois, comme ça, son petit gosse revient de l'école. Il dit, maman, professeur de mathématiques, c'est un imbécile. Il avait, je crois, 7 ans, 8 ans. C'est un imbécile. Il a dit quoi? Pourquoi c'est un imbécile? Oui, oui. Il a dit, 1 et 1, 2. Bah, 1 et 1, c'est 1, c'est pas 2. Alors, quand il prend son bain, la mère envoie une balle, puis une autre balle, dit, tu vois, une balle, plus une autre balle, ça fait 2 balles. Oui, mais il n'a pas dit ça, il a dit 1 et 1. Il avait dit une balle et une balle, ça fait 2, j'aurais compris. Là, il était intelligent, mais il était bête, il a dit 1 et 1. Merci, il doit y avoir quelque chose effectivement entre lui et son professeur. Elle va voir le professeur. Elle me dit, je suis la mère de... Ah, vous êtes la mère de... Oh, ça n'a... Ici, il ne comprend rien du tout. Vous voyez, le côté affectif. Il fait tout de suite des divisions. Et qui fait que ce pauvre gosse, toute sa vie, les mathématiques sont liées à son maître. C'est un imbécile. Donc, les mathématiques sont idiotes. À cause du professeur imbécile. dire pour toutes ces choses-là, c'est là où la psychologie peut préciser certains blocages. Mais une bonne mère, attentive à l'éducation de son enfant, s'en aperçoit tout de suite. Et elle comprend qu'il y a eu des arrêts, des refoulements. Et ces refoulements, c'est bien quelque chose qui est très, très... Qu'est-ce qu'il y a encore ? La dernière.
D'où vient que certains grands malades, gravement malades, ont une grande activité spirituelle et une si grande vivacité de la part de leur âme, qui n'informe plus parfaitement leur corps, mais lutte pour le porter ?
De parler abstraitement de ça. C'est évident que quelqu'un a pu développer énormément en lui le point de vue spirituel. Il était bien important à ce moment-là. La maladie arrive. La maladie touche le corps, l'affaiblit, diminue ses forces, mais n'a pas diminué sa spiritualité. Et la spiritualité porte le corps. C'est la vie de l'esprit. C'est la vie affective de l'esprit et c'est la vie spirituelle qui est en lui. Alors il porte le corps. Mais quand cette maladie arrive dès le point de départ et qu'il n'y a pas beaucoup de développement, alors à ce moment-là, c'est sûr que la santé peut jouer, ou la maladie peut jouer un rôle très différent. Ou d'arrêter, favoriser la paresse, on se replie sur soi, on ne sait plus rien du tout. Ou au contraire, comme une exigence d'aller toujours plus loin et de se donner plus à fond. Alors à ce moment-là, on a ces choses très curieuses, ces espèces de régression au niveau vie végétative et un développement très beau du côté spirituel. Les deux ne progressent pas en même temps. Ce qui montre bien les deux sources. Il y a une source pour un développement végétatif, il y a une source pour le développement spirituel.